Chapitre 82. Sigi, mon amour. C'est arrivé un matin de janvier 1998. J'ai juste deviné leur nom de malheur. Magnan, Fontanelle, Letellier, Lindon, Croquevieille, Petit. Ils étaient glissés dans la poche arrière d'un des jeans de Philippe Toussaint, presque illisible. La liste était passée à la machine à laver. L'encre avait bavé comme si quelqu'un avait pleuré longtemps sur le papier dégorgé. J'avais mis à sécher son pantalon sur le radiateur de la salle de bain, et quand je l'ai retiré, j'ai vu quelque chose dépasser. C'était un morceau de nappe en papier, plié en quatre, sur lequel, une fois de plus, Philippe Toussaint avait inscrit leur nom. Pourquoi ? Je me suis assise sur le rebord de la baignoire en prononçant ce mot plusieurs fois. Pourquoi ? Nous vivions à Brancion-en-Chalon depuis 5 mois. Philippe Toussaint s'échappait chaque jour de 2 manières. Les jours de pluie avec ses jeux vidéo, les jours sans pluie sur sa moto. Il avait repris les mêmes habitudes qu'à Malgrange, mais ses absences étaient plus longues. Il fuyait les passants du cimetière, les enterrements, l'ouverture et la fermeture des grilles. Il avait bien plus peur des morts que des trains, des visiteurs endeuillés que des usagers de la SNCF. Il retrouvait des passionnés de moto comme lui pour faire des rallyes en campagne. De longs circuits qui, je pense, se terminaient en virée extra-conjugale. En fin d'année 1997, il était parti 4 jours d'affilée. Il était rentré rompu de son escapade et, curieusement, j'avais tout de suite vu, compris, senti qu'il n'avait pas retrouvé une de ses maîtresses comme à son habitude. En arrivant, il m'avait dit « Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler. On est parti plus loin que prévu avec les autres et, sur notre itinéraire, il n'y avait pas de cabine téléphonique, c'était la cambrousse. » C'était la première fois que Philippe Toussaint se justifiait. La première fois qu'il s'excusait de ne pas avoir donné signe de vie. Il était revenu le jour de l'exhumation d'Henri Ange, mort à 22 ans au Champ d'honneur en 1918 à Sancy, dans l'Aisne. Sur la stèle blanche, on devinait encore les mots « regret éternel ». L'éternité d'Henri Ange avait pris fin en janvier 1998, ses restes jetés dans l'ossuaire. Ma première exhumation. On n'avait rien pu faire avec les fossoyeurs pour épargner son repos. Sa tombe était trop délabrée et rongée par la mousse depuis des décennies. Tandis que les fossoyeurs ouvraient le cercueil dévoré par le temps, l'humidité et la vermine, j'avais entendu la moto de Philippe Toussaint. Je les avais laissés derrière moi pour finir leur travail. Je m'étais dirigée vers la maison par habitude. Quand Philippe Toussaint rentrait, je le réceptionnais, comme le personnel de maison quand monsieur rentre. Il avait enlevé son casque lentement. Il avait mauvaise mine, les yeux fatigués. Il s'était longuement douché, puis avait déjeuné en silence. Ensuite, il était monté faire une sieste et avait dormi jusqu'au lendemain matin. Vers 23 heures, je l'avais rejoint dans notre lit. Il s'était collé derrière moi. Le lendemain matin, après avoir pris son petit déjeuner, il était reparti sur sa moto, mais pour quelques heures seulement. Plus tard, il m'a avoué que durant ses 4 jours d'absence, il était parti à Épinal pour parler à Edith Croquevieille. Cela faisait 5 mois que nous vivions ici. Et je n'étais pas retournée chez Geneviève Magnan pour questionner Fontanelle, ni au restaurant où travaillait Swann Letellier. Je n'avais pas cherché à savoir où vivaient les 2 monitrices pour leur parler. La directrice devait être sortie de prison, elle n'avait pris qu'un enferme. Je n'étais jamais repassée devant le château. Je n'entendais plus la voix de Léonine me demander pourquoi tout avait brûlé cette nuit-là. Sacha ne s'était pas trompé, cet endroit me réparait. J'avais tout de suite trouvé mes repères dans ce cimetière, dans la maison, dans le jardin. J'aimais la compagnie des fossoyeurs, des frères Luccini et des chats, qui venaient de plus en plus souvent boire un café pour les uns, une tasse de lait pour les autres, dans ma cuisine, quand mon mari n'était pas là. Quand la moto de Philippe Toussaint était garée devant la porte côté rue, il n'entrait jamais. Il n'y avait aucune inclination entre eux, juste « bonjour, bonsoir ». Les hommes du cimetière et Philippe Toussaint ne se portaient aucun intérêt. Quant au chat, Il le fuyait comme la peste. Seul monsieur le maire, qui nous rendait visite une fois par mois, se fichait que Philippe Toussaint soit présent ou pas, c'est toujours à moi qu'il s'adressait. Il semblait satisfait de notre travail. Le 1er novembre 1997, après s'être recueilli sur le tombeau de sa famille et avoir vu les pins que j'avais plantés, il m'avait demandé de cultiver et de vendre quelques pots de fleurs au cimetière. Ce serait un plus, et j'avais accepté. Le premier enterrement auquel j'avais assisté en tant que gardienne de cimetière avait eu lieu en septembre 1997. J'avais, dès ce jour, commencé à consigner les mots, décrit les gens qui étaient présents, les fleurs, la couleur du cercueil, les hommages qu'ils avaient posés sur les plaques funéraires, la météo qu'ils faisaient, les poèmes ou les chansons choisies, si un chat ou un oiseau s'était approché de la tombe. J'avais tout de suite ressenti cette nécessité de laisser les traces du dernier instant pour que rien ne s'efface. Pour tous ces gens qui ne pourraient pas assister à la cérémonie à cause de la douleur, du chagrin, d'un voyage, du rejet ou de l'exclusion. Quelqu'un serait là pour dire, témoigner, raconter, rapporter. Comme j'aurais voulu qu'on le fasse pour l'enterrement de ma fille. Ma fille, mon grand amour, t'avais-je abandonné ? Assise sur le rebord de la baignoire, le morceau de nappe en papier dans mes mains, leur nom bavant sous mes yeux, j'ai ressenti l'envie irrépressible de faire comme Philippe Toussaint, partir quelques heures, sortir d'ici, marcher ailleurs, voir d'autres rues, d'autres visages, des vitrines de vêtements et de livres, retourner vers la vie, vers un cours d'eau. En dehors des courses que je faisais dans le petit centre-ville, je n'avais pas quitté le cimetière depuis 5 mois. Je suis sortie dans les allées du cimetière. J'ai cherché Nono pour qu'il me dépose à Mâcon et revienne me chercher en fin d'après-midi. Il m'a demandé si j'avais mon permis de conduire. Oui. Il m'a tendu les clés de l'utilitaire de la mairie. J'ai le droit de le conduire ?
Tu es employée de la ville ?
J'ai fait le plein ce matin. Bonne journée. J'ai pris la direction de Mâcon. Depuis la Fiat de Stéphanie, je n'avais plus touché un volant, à cette liberté-là. J'ai roulé en chantant « Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. » Pourquoi j'ai chanté ça ? Les chansons de mon oncle imaginaire m'ont toujours traversé comme des souvenirs qui n'existent pas. Je me suis garée dans le centre-ville. Il devait être 10 heures, les magasins étaient ouverts. J'ai d'abord bu un café dans un bistrot, regardé les vivants entrer et sortir, marcher sur les trottoirs, leurs voitures s'arrêter au feu rouge. Des vivants qui n'étaient pas endeuillés. J'ai traversé le pont Saint-Laurent, longé la Saône et marché dans des rues au hasard. C'est ce jour-là que son nez m'a pendri hiver et m'a pendri été. Je me suis offert une robe grise et un sous-pull rose en solde. À l'heure du déjeuner, j'ai voulu me rapprocher du quartier des restaurants pour acheter un sandwich. Il faisait froid, mais le ciel était bleu. J'ai eu envie de déjeuner sur un banc au bord de l'eau, de jeter mes restes de pain aux canards. En repensant au chat siamois qui m'avait sauvé la vie le soir où j'avais attendu Swann Le Tellier, je me suis perdue. Je me suis retrouvée dans des rues que je ne connaissais pas. À un carrefour, j'ai cru me repérer, mais au lieu de reprendre la bonne direction, je me suis éloignée du centre. Les rues étaient bordées de maisons et de résidences. J'ai regardé les clôtures, les balançoires vides, les salons de jardin dissimulés sous des bâches en plastique en ce mois de janvier. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, reposant sur sa béquille, une des roues accrochée à un antivol. La moto de Philippe Toussaint était garée à 100 mètres de moi. Mon cœur s'est mis à battre comme celui d'une petite fille qui n'a pas la permission de ses parents pour sortir de chez elle. J'ai eu envie de faire demi-tour en courant, mais quelque chose m'a retenue. Je voulais savoir ce qu'il faisait là. Quand il partait vers 11 heures et revenait vers 16 heures, j'imaginais qu'il allait très loin. Parfois, en rentrant, il me racontait ce qu'il avait vu. Il n'était pas rare qu'il fasse plus de 400 kilomètres dans la journée. En regardant sa Honda, j'ai pensé que je l'avais toujours vu garé devant chez nous. Philippe Toussaint ne m'avait jamais proposé de m'emmener quelque part. Il n'y avait jamais eu deux casques à la maison, juste le sien. Et quand il en changeait, il revendait l'ancien. Un chien a aboyé derrière une palissade. J'ai sursauté. Au même moment, je l'ai entreaperçu à travers la fenêtre d'une bâtisse flanquée d'une pelouse jaunie de l'autre côté de la rue. Il a traversé une pièce au rez-de-chaussée et j'ai reconnu sa silhouette, sa dégaine, le blouson qu'il enfilait à vive allure, sa tête de fouine, sa maigreur. Swann le Tellier. J'ai senti des fourmis dans mes mains, comme si j'étais restée dans la même position trop longtemps. Il se trouvait dans une petite résidence en béton de 3 étages, aux couleurs pastel passées. D'anciens balcons aux garde-fous usés portaient les stigmates du temps. Quelques jardinières vides s'y accrochaient encore. Elles semblaient avoir connu de nombreux printemps, mais peu de fleurs. Swann le Tellier est apparu dans le hall. Il a poussé une porte en aluminium et longé le trottoir d'en face. Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il entre dans le bar du coin. Il s'est dirigé vers le fond, là où Philippe Toussaint l'attendait. Il s'est assis à sa table, en face de lui. Ils ont parlé calmement, comme de vieilles connaissances. Philippe Toussaint remonta le fil de l'histoire. Mais laquelle ? Il recherchait quelqu'un, quelque chose. D'où cette liste, toujours la même, qu'il écrivait au dos d'une addition ou d'une nappe, comme pour résoudre une énigme. À travers la vitre, je ne voyais que ses cheveux. Comme le premier soir au Tibourin quand il me tournait le dos. Quand, depuis le bar, je contemplais ses boucles blondes qui passaient du vert au rouge au bleu sous les projecteurs. Elles avaient un peu blanchi et l'arc-en-ciel de sa jeunesse s'était éteint. Le prisme de lumière à travers lequel je l'admirais aussi. J'ai pensé que depuis des années, quand je posais mes yeux sur lui, il faisait toujours le même temps gris. Les jolies filles qui murmuraient des douceurs à son oreille, tandis que je scrutais son profil parfait, avaient disparu. Ne devaient rester que des femmes empâtées dans ses lits de fortune. Le parfum qu'elle laissait sur sa peau avait changé. Les fragrances raffinées étaient devenues des effluves bon marché. Ils étaient seuls au fond de la salle du bistrot sombre. Ils ont parlé 15 minutes, puis Philippe Toussaint s'est levé brusquement pour sortir. J'ai tout juste eu le temps de me faufiler dans une impasse située sur le côté du bar. Il a redémarré sa moto et est parti. Swann le Tellier était toujours à l'intérieur. Il était en train de finir son café quand je me suis approchée de lui. J'ai vu qu'il ne me reconnaissait pas. Qu'est-ce qu'il voulait ? Pardon ? Pourquoi est-ce que vous parliez à Philippe Toussaint ? Dès qu'il m'a identifié, les traits de le Tellier se sont durcis. Il m'a répondu d'un ton sec. Il dit que les gosses ont été asphyxiés par du monoxyde de carbone, que quelqu'un aurait allumé un chauffe-eau ou je ne sais pas trop quoi. Votre mari cherche un coupable qui n'existe pas. Si vous voulez mon avis, feriez mieux d'aller de l'avant tous les deux. Vous pouvez vous le carrer où je pense, votre avis. Les yeux de le Tellier se sont arrondis. Il n'a plus osé dire un mot. Je suis ressortie dans la rue et j'ai vomi ma bile sur le trottoir, comme une ivrogne.